Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles. Nous sommes le jeudi 9 février, il est 16h. Votre livraison d'actualité internationale, nationale, provinciale et locale, le débrief, commence dans quelques instants à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. C'est maintenant 9 degrés Celsius au centre-ville de Victoria. Il y a même quelques percées de soleil. Je vous envoie tout de suite les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouve dans 4 minutes avec la suite des informations du jour. Ne manquez pas, en fin d'émission, notre invité Paul-André Mongeau, directeur général de la Société francophone de Victoria. Paul-André nous parlera du 5 à 7 du sommelier du 25 février. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau se rendra en Europe la semaine prochaine. Son bureau a fait savoir qu'il s'agira d'une importante étape dans le dossier de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il s'adressera au Parlement européen à Strasbourg le 16 février avant de se rendre à Berlin et Hambourg en Allemagne les 16 et 17 février pour rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Selon le bureau du premier ministre, il s'agira de la première allocution d'un premier ministre canadien devant le Parlement européen. 5 projets de développement en Haïti auront le soutien du Canada. Les projets visent la santé et le bien-être. Ils auront pour mission d'améliorer la santé et les droits des femmes et des enfants et accroître l'accès à une éducation de base. L'investissement atteint 91,2 millions de dollars. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, a dit que le Canada est aux côtés du nouveau gouvernement d'Haïti et est impatient de collaborer pour faire progresser la vision commune. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé a lancé un appel de proposition pour l'innovation en soins palliatifs et de fin de vie au Canada. La Fondation a mentionné que d'après les estimations, 70% des quelque 220 000 Canadiens qui décèdent chaque année n'ont pas accès à des soins palliatifs et ajoute que cette situation peut être corrigée grâce à la recherche. Maureen O'Neill, présidente de la Fédération, a dit que consolider l'accès aux soins palliatifs est une priorité que partagent tous les Canadiens. On rappelle qu'Ottawa accordera 372,5 millions de dollars à Bombardier sous forme de contributions remboursables. Le gouvernement Trudeau a indiqué que les fonds vont appuyer des milliers d'emplois de haut calibre pour la classe moyenne et aideront à long terme Bombardier. Le président de Bombardier, Alain Bellemare, a dit que les contributions vont aider à faire en sorte que le pays demeure au cœur des activités de recherche-développement de Bombardier. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a déclaré que le Canada pourra profiter d'une industrie de l'aérospatiale forte, stable et concurrentielle. Bill Morneau est à Washington aujourd'hui. Le ministre des Finances du Canada doit rencontrer les conseillers économiques Gary Cohn, Dana Powell et Kenneth Juster. Les discussions se tiendront à la Maison-Blanche. Le ministre Morneau fera également un discours à l'Université Georgetown sur les relations canado-américaines. Certains résidents canadiens qui ne pouvaient plus aller aux États-Unis en raison du décret américain ont vu au cours des dernières heures le rétablissement des privilèges de leur carte Nexus à la frontière américaine. Le tout a été confirmé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale. Il a confirmé qu'avec la suspension judiciaire du décret, les cartes Nexus d'environ 200 résidents permanents canadiens révoquées il y a quelques jours sont de nouveau valides. James Baker a dit sur les ondes de CNN que les deux premières semaines de l'administration Trump ont été marquées de bons coups et certains de moindres succès. L'ancien secrétaire d'État de l'administration de George H.W. Bush a dit que le décret sur l'immigration est flou et manque de précision. Il s'est également prononcé sur l'environnement qui n'est pas une priorité pour l'administration Trump. James Baker a déclaré à l'animateur John King que la logique qui sous-tend la taxe sur le carbone et que le prix relié à la pollution de l'atmosphère va inciter les entreprises et les personnes à se déplacer vers des sources d'énergie propre et renouvelable. Les données en provenance de la Société canadienne d'hypothèques et de logements indiquent qu'il y a eu 199 834 mises en chantier d'habitation au Canada en janvier. Il y en avait eu 197 881 en décembre. De plus, dans l'ensemble des régions du Canada, les chiffres démontrent que le nombre annualisé de mises en chantier d'habitation est passé de 206 305 à 207 408 entre décembre et janvier. Au sport au hockey, Ligue nationale, victoire de Chicago en prolongation 4-3 contre le Minnesota. Ce soir, Montréal sera en Arizona, Saint-Louis à Toronto, Dallas à Ottawa et Columbus recevra Vancouver. NBA, victoire du Minnesota 112-109 contre Toronto. Au football canadien, selon Matthew Scanetti du réseau TSN, les Eskimos d'Edmonton seraient prêts de finaliser un contrat avec le receveur de passe Shamad Chambers. Les Rough Riders de la Saskatchewan avaient libéré Chambers le mois dernier. Et au baseball majeur, eh bien, on testera un changement concernant les manches supplémentaires à compter de la saison prochaine. L'expérience se fera cependant dans les rangs mineurs. Jeff Passan de Yahoo Sports a fait savoir que chaque équipe commencera chaque manche supplémentaire avec un coureur au deuxième but.
C'était le bulletin de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief, où que vous soyez, au travail, en voiture ou à la maison. On va toucher quelques mots sur la météo. La pluie est très présente actuellement sur le sud de l'île de Vancouver. On a des éclaircies actuellement sur Victoria, mais c'est de la pluie essentiellement en soirée par intermittence. On a 9 degrés actuellement. Le mercure va descendre à 5 en soirée. Demain, ce sera 8 avec des averses. Même chose pour samedi 11 février. Un dégagement est prévu pour le dimanche 12 février, selon ce que nous rapporte Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Et je note qu'il y a 2 alertes sur le portail météo.gc.ca aujourd'hui 9 février à 16h et des poussières. Donc un avertissement concernant la route 3 entre Hope et Princeton. Ça, c'est dans l'intérieur de la province. Et par ailleurs, un autre avertissement concernant le Coquihalla qui relie Hope à Merritt. Il y a une fermeture de ce côté. On y reviendra après le Radio-Journal des Nations Unies. Un petit regard sur le sud de l'île. Je le disais, on a 9 degrés du côté de Victoria. C'est 7 degrés à Sook. Cependant, c'est 1 degré seulement à Nanaimo. Alors, il y a encore une masse d'air froide qui domine sur Nanaimo. Et c'est 8 degrés actuellement par ailleurs au centre-ville de Vancouver. On va se transporter au Radio-Journal des Nations Unies. À présent, on se retrouve dans une dizaine de minutes avec les nouvelles du jour.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. En raison des intempéries au siège de l'ONU à New York, nous vous proposons une édition spéciale du journal radio de Nu Info consacrée à la crise du bassin du lac Tchad. Dans cette région affectée par le conflit avec Boko Haram, 11 millions de personnes ont actuellement besoin d'une assistance humanitaire immédiate, dont 7,1 millions qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme. Pour en savoir plus, nous recevons dans nos studios le coordinateur régional humanitaire pour la région du Sahel, Toby Lanzer.
Je pense que depuis les dernières 6 mois, on a eu l'occasion de mieux comprendre la situation dans des villages, dans les villes, pas seulement dans le nord-est du Nigeria, mais dans le nord du Cameroun, le ouest du Tchad, le sud-est du Niger. Et c'est vraiment effrayant. Jusqu'aujourd'hui, on a 11 millions de personnes qui sont en détresse. Et moi, je n'utilise pas les mots comme ça. Elles sont vraiment en détresse et elles ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate, dont 7 millions qui sont dans une situation aiguë d'insécurité alimentaire. Ça, c'est un terme un peu technique, insécurité alimentaire aiguë. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont même pas un repas par jour. Donc, une situation effrayante. 515 000 enfants cette année qui peuvent perdre la vie à cause de la malnutrition, qui est tellement sévère qu'on est allé dans des villages où il manquait totalement des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et on a posé des questions, mais elles sont où les enfants? Ils ont perdu leur vie. Donc, une situation comme ça, moi, j'ai jamais vu. Et je fais vraiment l'appel à la communauté internationale d'arrêter d'insister que c'est le Nigeria est riche, ils peuvent résoudre ce problème lui-même. Moi, je ne connais pas un seul État membre des Nations Unies, un seul pays qui pourrait faire face à une situation comme celle du nord-est du Nigeria, qui, par extension, touche aussi tout le bassin du lac Tchad.
On va revenir sur les appels à l'aide un peu plus tard.
Ouais.
Vous venez d'évoquer une situation atroce avec des villages qui n'ont pas d'enfants de 2, 3, 4 ans. Et vous vous êtes rendu sur le terrain. Alors justement, qu'avez-vous pu voir de vos propres yeux? Qu'avez-vous pu témoigner sur le terrain?
Des adultes qui peuvent presque pas marcher parce qu'ils manquent d'énergie. Des femmes avec quelques enfants, quelques bébés, il faut dire, ou des enfants qui sont un peu plus grands qui sont encore en vie. Une destruction très sévère partout dans les zones rurales de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Mais en même temps, et c'est vraiment un paradoxe, mais on sent toujours une résilience des personnes incroyables, une énergie. Une femme qui m'a dit... Écoutez, dès qu'il y a vraiment la sécurité, moi je peux faire en sorte pour sortir de cette situation. Je veux rester chez moi, je veux rester dans mon village. J'ai survécu ici depuis 3 ans avec une situation effrayante, mais je sens que ça va un peu mieux. Est-ce que vous pouvez m'aider à reconstruire ma vie? Je veux que mes enfants de 6 ans, de 7 ans aillent à l'école pour la première fois, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, c'est très touchant la situation et c'est pour ça que je me bats avec la communauté internationale. On va organiser une conférence grâce à la générosité de la Norvège, qu'il faut vraiment souligner, qui ont été très touchés par la situation. Leur ministre des Affaires étrangères qui était au Nigeria juste avant Noël. Et puis le 24 février, il y aura un moment pour la communauté internationale sous le patronage de la Norvège, de l'Allemagne et le Nigeria avec l'appui des Nations Unies pour faire en sorte que cette souffrance humanitaire aiguë, qu'elle s'arrête cette année dans le bassin du lac Tchad.
Comment se fait-il que la situation humanitaire soit si grave si aujourd'hui on se félicite des avancées militaires et des interventions qui ont porté leurs fruits?
Très bonne question. Écoutez, parce que en fait... C'est juste à partir de juin 2016, donc les dernières 6 mois, qu'on a pu comprendre, accéder d'abord les villages et les villes en dehors de Maiduguri, la ville principale dans le nord-est du Nigeria, et à travers de cet accès, de vraiment comprendre la gravité de la situation. Moi-même, avec une expérience... dans plusieurs contextes comme ça, j'attendais pas ce que j'ai vu. Donc, maintenant, la question, elle est simple. La souffrance est là, il faut la traiter. Et il faut faire en sorte que les gens puissent vivre, pas seulement survivre.
Ça veut dire apporter une aide autre qu'une aide d'urgence?
Oui, c'est-à-dire l'aide d'urgence qui est très, très importante immédiatement. Là, on parle des aliments, surtout. Mais en même temps, sans doute aucune une aide qui va beaucoup plus loin et qui vraiment peut aider les gens à reconstruire leur vie, parce que c'est ça qu'ils veulent et c'est ça. Il y a une énergie, un dynamisme remarquable dans cette région que moi, je n'ai pas constaté dans des autres pays souvent. Les gens, ils veulent vraiment mettre le passé dans le passé et aller en avant. Et je veux les soutenir dans ce sens.
Vous avez parlé d'accès tout à l'heure. Est-ce que vous avez désormais accès partout dans la région? Il y a encore des zones qui ne sont pas accessibles?
C'est jamais partout et c'est fluide la situation sécuritaire, mais il faut reconnaître que c'est beaucoup mieux maintenant. Et grâce à l'engagement de la Suède, du Royaume-Uni, des autres pays, par exemple, qui nous ont soutenus pendant les dernières 2 mois, on crée actuellement des bureaux en dehors de Maiduguri. Ce n'est pas des bureaux comme on imagine, c'est des humanitarian hubs, on les appelle
c'est en anglais.
C'est des petits centres en fait, voilà, c'est des petits centres où il y a un logement pour les acteurs humanitaires, un petit bureau pour eux, d'où ils peuvent faire leur projet, leur programme pour les populations en détresse.
Et la crise se concentre quand même majoritairement au Nigeria, puisqu'on sait que c'est vraiment le bassin, la région.
Écoutez, il ne faut jamais oublier le Cameroun, le Tchad et le Niger. C'est vrai, l'épicentre, si vous voulez le dire, c'est le nord-est du Nigeria. Mais, dans le nord du Cameroun, il y a des défis humanitaires qui sont tellement frappants. 1,5 million de personnes en détresse au Tchad. Tellement de problèmes au Tchad auxquels le gouvernement doit faire face. Hein. Ce n'est pas seulement dans le bassin du lac Tchad, mais pour N'Djamena, c'est aussi les réfugiés de la RCA, c'est encore les réfugiés de Darfour. C'est une région où les défis sont assez grands et je pense que pour la communauté internationale, 2017, c'est vraiment une opportunité de s'engager de plus en plus dans cette région ou voir une diminution dans la situation des êtres humains qui habitent là, des millions et des millions de personnes comme on n'a jamais vu nulle part. Les enjeux sont tellement graves. Je n'exagère pas. J'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie et j'espère pas le revoir.
D'où la conférence d'Oslo le 24 février. Quelles sont vos attentes?
Écoutez, mes attentes de Oslo, c'est qu'il y a une participation très haut niveau par les États membres des Nations Unies et qu'il y ait vraiment un engagement par les États membres qui ont été un peu timides jusqu'à ce moment-là. Si on regarde, par exemple, ce contexte, il y a 4, 5, peut-être 6 pays qui sont très engagés, que ce soit la France, le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, la Commission européenne comme entité. Mais il y a des autres États membres que normalement sont très présents, qui appuient beaucoup les agences onusiennes, les ONG, et eux, je dirais, ils ont été très timides dans ce contexte. Donc, à travers de Oslo, on essaye de faire en sorte, avec la générosité de la Norvège, de faire en sorte que les autres pays scandinaves, comme la Suède par exemple, les autres pays en Europe comme les Pays-Bas par exemple, puissent participer d'une façon plus dynamique.
Vous visez une somme particulière?
L'appel pour le bassin du lac Tchad pour 2017 a des besoins financiers de 1 milliard de dollars à peu près. Donc, à travers de la conférence, un pas très important vers ce but sera nécessaire pour sauver les vies et donner un espoir de vie aux millions de personnes qui ont été frappées par la violence extrême dans le bassin du lac Tchad. Jusqu'à ce moment.
Et c'est avec Toby Lanzer que se referme ce journal radio de Nu Info. Une édition à retrouver sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Alors, un bulletin à formule modifiée de la part d'ONU Info, le service des nouvelles des Nations Unies, a modifié son bulletin. Ils ont puisé dans leur voûte d'interviews et ils nous ont servi une interview récente puisque les intempéries sur New York empêchaient l'équipe de procéder à la production du journal habituel. Alors, comme quoi, ils sont pas les seuls à avoir subi des conditions météo difficiles dans les dernières heures. On en a eu ici notre dose, vous le savez. Alors, on commence avec ça, d'ailleurs. On ouvre ce bloc provincial avec les nouvelles sur la toute récente tempête hivernale qu'on a reçue ici dans le sud de l'île et ailleurs en Colombie-Britannique. Alors, la première nouvelle nous provient du portail vicnews.com, Victoria News, qui nous informait en début d'après-midi que 13 000 clients de BC Hydro demeuraient sans courant électrique. Alors, c'est en baisse, heureusement. Ils étaient 18 000 abonnés de BC Hydro en tout début de journée à subir des pannes d'électricité. Donc, la situation s'améliore et vous avez des mises à jour régulières sur le portail vicnews.com. Autrement, toujours à propos de cette tempête qui a traversé la province, le portail de CBC nous informait en début d'après-midi que les routes numéro 3 et numéro 1 sont fermées. Donc, ça comprend le Coquihalla qui relie Hope à Kamloops, qui c'est la voie la plus rapide vers l'intérieur de la province et l'Alberta. Donc, c'est fermé en raison des conditions météo très difficiles. Il y a eu plusieurs collisions, plusieurs sorties de route dans cette région montagneuse qui relie Hope à Merritt et à Kamloops. Et finalement, on a aussi appris que la route 3, qui est en fait une voie de contournement généralement lorsque la route numéro 1 est fermée, eh bien la route 3 est elle aussi fermée. Il ne reste plus qu'une seule route pour se rendre dans l'intérieur de la province et c'est une route un petit peu peu adéquate pour ce genre de destination. question, en fait, ça nous fait faire un gros détour. Et c'est ce que la neige abondante et le verglas ont causé. Donc, on se retrouve avec une seule route. Il s'agit de la route 99 qui relie Pemberton, Whistler et qui s'engage donc dans l'intérieur de la province. Alors, ça va sûrement causer des retards à de nombreuses personnes qui vont devoir faire halte et passer la nuit dans certaines localités attendant que les choses s'améliorent. Alors, ce ne sont pas les nouvelles de dernière minute. Alors, pour vraiment connaître les dernières nouvelles en temps réel, il faut se rendre sur Drive BC, qui est le portail de l'Agence des transports de la Colombie-Britannique. Drive BC a les dernières alertes, les dernières informations. Ils ont une carte qui se met à jour en permanence avec des pictogrammes qui indiquent la situation, ainsi que des caméras, des webcams qui nous permettent de visualiser le terrain tel qu'il se présente. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, effectivement, cette carte était illuminée de points rouges comme un arbre de Noël. Ça indiquait effectivement que la situation est assez difficile sur les routes actuellement. Alors, si vous prévoyez vous déplacer, c'est peut-être mieux de remettre à plus tard votre déplacement s'il n'est pas important ou urgent. On a un autre article dans cette revue de presse provinciale à propos des conditions météo et des conséquences. La ville de Vancouver nous rapporte, le portail ctvnews.ca songe à pénaliser les conducteurs automobiles qui n'étaient pas prêts à affronter les conditions hivernales, donc à savoir les conducteurs qui n'avaient pas de pneus d'hiver ou de pneus toute saison et qui roulaient avec des pneus d'été. On va aussi viser les conducteurs qui ne déblaient pas leur voiture convenablement, qui se déplacent comme des boules de neige ambulantes avec une toute petite ouverture devant le volant et de la neige recouvrant le reste du véhicule. Alors, la ville de Vancouver songe à vraiment s'attaquer à ces conducteurs qui sont des dangers pour eux-mêmes et pour les autres. On va passer à d'autres nouvelles provinciales et dernier mot à ce sujet à propos des conditions météo difficiles. Je vous encourage à consulter Drive BC et à consulter également le portail d'Environnement Canada météo.gc.ca. Christy Clark crie au piratage, mais n'a pas de preuves. Alors, on a effleuré cette nouvelle hier dans le débrief. Radio-Canada, Colombie-Britannique a une nouvelle sur le sujet aujourd'hui. Christy Clark crie au piratage sans preuves. La première ministre Christy Clark a du mal à fournir des preuves pour étayer ses accusations de piratage adressées au nouveau parti démocratique, donc adressées à l'opposition. C'est au cours d'une entrevue qu'elle accordait mardi au Vancouver Sun que la première ministre a indiqué avoir constaté que des membres du NPD avaient tenté de pirater le site web de son parti, le Parti libéral. Elle a souligné l'illégalité d'une telle pratique. Alors, elle n'a pas fourni de preuves. D'ailleurs, on ne sait pas réellement à ce jour si le parti a vu son site piraté, vraiment. C'est ce que la première ministre a affirmé et elle en a rajouté en pointant du doigt le parti néo-démocrate. Alors, vive réaction partout dans les médias sociaux, bien sûr, et de la part des accusés, à commencer par le chef du parti néo-démocrate, John Horgan, qui a exigé des excuses de la première ministre et en cours de journée aujourd'hui, la première ministre effectivement a reculé. Elle a déclaré qu'elle avait réagi sous le coup de l'émotion. Vous trouverez ça dans le fil anglophone de la presse canadienne. BC Premier Clark backs away from hacking allegations against opposition NDP. Alors, elle ne s'est pas excusée. Pour le moment, il n'y a pas encore d'excuses. Cependant, elle avoue qu'elle a sauté aux conclusions trop rapidement et qu'elle a réagi sous le coup de l'émotion et de la frustration lorsqu'elle aurait constaté que le site web de son parti avait été piraté. Le piratage soutient le Parti libéral proviendrait de la législature, donc de l'Assemblée législative à Victoria. L'origine du piratage proviendrait carrément du Parlement. Alors ça, c'est ce qu'affirme le Parti libéral actuellement. La première ministre a aussi indiqué que si John Horgan souhaite réellement obtenir des excuses, il pourra revenir sur le sujet lors des travaux de la Chambre du Parlement de Colombie-Britannique. Alors, vous trouverez ça dans le fil anglophone de la presse canadienne. À propos de commerce international, à présent, on parle du vin de Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est un grand producteur de vin. Autour de l'Union européenne de contester les politiques de la Colombie-Britannique sur le vin. L'Union européenne se rallie aux États-Unis afin de contester les politiques sur l'alcool en Colombie-Britannique. L'Union européenne avance que ces politiques contreviennent aux principes de commerce international. En 2015, la Colombie-Britannique avait adopté une loi permettant à 14 supermarchés de vendre des vins dans la province, des vins de Colombie-Britannique. Le mois dernier, le gouvernement américain a déposé une plainte officielle à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et les États-Unis avancent que les règles de la province sont discriminatoires. Et voilà que l'Union européenne, c'est ce qu'on apprend cette semaine, va se joindre à la plainte des États-Unis, car elle dit, elle aussi, être pénalisée par ces décisions réglementaires, ces décisions de concurrence déloyale de la Colombie-Britannique. Alors, ça va se régler vraisemblablement devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le mois dernier, rappelle cet article de Radio-Canada, la ministre de l'Emploi, Shirley Bond, avait indiqué qu'elle était certaine que la province de Colombie-Britannique jouait selon les règles. Donc, on a la Colombie-Britannique campe sur ses positions. Elle affirme qu'elle n'a pas accordé un avantage indu au vin de la province. Donc, ça reste à voir. Dans le Time Colonist, maintenant, notre journal local, suite des chiffres du recensement qui ont été dévoilés cette semaine, l'analyse de ces chiffres statistiques rendus publics par Statistique Canada continue d'être effectuée et les journalistes du Times Colonist nous indiquent qu'il y a, selon les données de Statistique Canada, de très nombreux logements inoccupés dans la région du Grand Victoria. Donc, des logements qui sont sans occupants, c'est ce que prouve le recensement de 2016. Évidemment, qui dit logement inoccupé dit le logement qui ne sont pas sur le marché de la location. On sait que l'accès au logement est très difficile ici dans la grande région de Victoria, mais aussi de Vancouver, pour les étudiants, les jeunes travailleurs, les personnes âgées. Donc, s'il y a de nombreux logements inoccupés, cela veut dire qu'il y a peut-être des logements parmi ces logements-là qui pourraient être loués, qui pourraient être offerts sur le marché locatif. C'est ce que croit la mairesse Lisa Helps, qui est interrogée dans cet article. Elle pense qu'une certaine portion de ces très nombreux logements inoccupés, on en compte 50 000, en fait, selon les chiffres de Statistique Canada dans la grande région de Victoria. La mairesse Lisa Helps croit que certains de ces logements pourraient être offerts sur le marché locatif et ça permettrait d'alléger un petit peu la crise du logement à Victoria. Donc, vous trouverez ça dans le Times Colonist en date du 8 février. De retour sur le portail de Radio-Canada, on parle de deux agressions survenues au parc Stanley à Vancouver. Le parc Stanley, c'est un parc mondialement connu, très grande superficie, il y a des régions boisées. Alors, deux agressions survenues au parc Stanley et la communauté LGBT est inquiète, nous indique cet article. La communauté LGBT vancouveroise est nerveuse après deux agressions, dont une mortelle survenue ces derniers mois au parc Stanley à Vancouver, sur un chemin fréquenté par les homosexuels et connu sous le nom de Gay Cruising Trail. La police refuse de relier officiellement les deux agressions, mais se dit également incapable de les dissocier. Bien que la communauté LGBT soit inquiète, les autorités ne peuvent pas affirmer qu'elle est visée directement du moins pour le moment. La première agression remonte au mois de novembre dernier lorsqu'un homme de 80 ans a été retrouvé violemment battu dans le parc Stanley au volant de sa voiture. Ses blessures l'ont envoyé 3 mois à l'hôpital. Plus récemment, ce mois-ci, un autre homme, dans la soixantaine, a été retrouvé mort, poignardé. Il s'agit de Jamie Lee Hamilton, une militante vancouveroise qui est interviewée dans cet article, est convaincue que ces événements sont homophobes. Les agressions ont eu lieu dans 2 secteurs habituellement fréquentés par les homosexuels, a-t-elle déclaré aux journalistes de Radio-Canada. Donc, s'il y a un prédateur qui rôde en ce moment, la communauté LGBT doit être tenue au courant. Un petit fait divers qui concerne un planchiste québécois qui est venu faire de la descente et du ski hors piste dans les Rocheuses. Alors, il s'est perdu en hors piste et il a passé 6 nuits perdu dans la forêt. Le titre de cet article, il a frôlé la mort en montagne. C'est dans le Journal de Montréal et dans d'autres médias francophones. Un planchiste de Victoriaville a miraculeusement survécu à 6 nuits en forêt après s'être perdu dans les montagnes de Golden en Colombie-Britannique où les températures ont affiché les moins 20 degrés. Il s'agit de Stéphane Boisvert, un professeur d'éducation physique de Victoriaville, âgé de 36 ans. Il avait passé la journée au Kicking Horse Mountain Resort à environ 100 km à l'ouest de Lake Louise lorsqu'il s'est aventuré seul le 29 janvier dans un secteur hors piste. Donc il a tenté de faire du backcountry comme on dit parfois chez les skieurs. Il a décidé de suivre une trace de planchiste derrière une corde et donc il a franchi un secteur délimité par une corde et sans le savoir, il s'est retrouvé sur un autre versant de la montagne et c'est là qu'il a réalisé qu'il était perdu en forêt. Donc le texte est assez intéressant. Il peut servir d'avertissement à ceux qui souhaitent faire du backcountry, du ski hors piste. C'est dans le Journal de Montréal, il a frôlé la mort en montagne. Donc, ce cas d'un gars de Victoriaville, qui faisait de la planche près de Golden dans l'est de la province. On va faire une petite pause musicale. On écoute l'auteur, compositeur, interprète Pierre-Hervé Goulet. C'est tiré de l'album Une chose à la fois. Et c'est la pièce éponyme, Une chose à la fois, qu'on entend tout de suite. Et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour.
La première fois, on recommence à chaque fois quand on fait 2 choses à la fois, une chose à la fois. Faut faire une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait 2 choses à la fois, une chose à la fois. C'est fou comme y'a rien qui marche quand on court après le temps, quand on court après le temps, y'a rien qui marche. Comme le disait mon père, tant pas faire en si peu de temps. Une chose à la fois. Il ne faut pas péter sa coche, surtout pas péter sa coche contre le temps qui change. Il faut comme fille en dépense, il me dit bon, un peu d'avance que de tester sa patience. Qu'on se fait pendre en 4, m'a dit l'arbre ambitieux qui a fini par s'abattre. Le temps est un libertin qui pousse en liberté. Je me répète en vain que je devrais m'en douter et faire une chose à la fois. Bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait 2 choses à la fois. Une chose à la fois, bien le faire la première fois, on recommence à chaque fois quand on fait 2 choses à la fois.
Le temps est un libertin qui pousse en liberté. C'est les paroles de Pierre-Hervé Goulet dans cette chanson intitulée Une chose à la fois. Merci d'être à l'écoute du débrief. C'est vrai que le temps passe très vite dans l'émission. Il est déjà 16h34. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 10 février. On va passer aux nouvelles du jour dans quelques instants. On va commencer avec une nouvelle qui nous arrive des États-Unis. Quelle surprise avec tous les décrets des derniers jours, toutes les annonces à l'emporte-pièce du président Trump. C'est effectivement avec ce sujet qu'on commence. Décret migratoire, une cour d'appel maintient la suspension du décret. Donc le décret anti-migrant du président Trump est bloqué une nouvelle fois. Ça vient tout juste de tomber il y a une heure. Une cour d'appel donc a maintenu la suspension de ce controversé décret signé par Donald Trump le 27 janvier. Un décret qui fermait temporairement l'entrée des États-Unis aux citoyens de 7 pays à majorité musulmane, le fameux Muslim Ban. Donc l'appareil judiciaire américain qui résiste encore aux décrets unilatéraux de Donald Trump. On va maintenant s'intéresser à une nouvelle qui paraît dans le journal La Presse. Justin Trudeau rencontrera Donald Trump lundi, dans quelques jours. C'est signé par le journaliste Joël Denis Bellavance dans La Presse. Le premier ministre Justin Trudeau rencontrera le président des États-Unis Donald Trump lundi à Washington, a indiqué aujourd'hui jeudi le bureau du premier ministre Justin Trudeau. Cette première rencontre entre les deux leaders surviendra quelques jours après la visite de quelques ministres influents du gouvernement Trudeau à Washington. Nous en avions parlé dans le débrief, dont la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, ainsi que le ministre des Finances Bill Morneau. Et lundi, le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, avait rencontré son homologue américain James Mattis au Pentagone. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis vont dominer les discussions entre Justin Trudeau et Donald Trump, avance le journaliste Joël Denis Bellavance dans cet article du journal La Presse. Le président américain a clairement fait savoir qu'il veut renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, le NAFTA, comme on l'appelle dans son acronyme anglophone, afin d'obtenir des concessions à l'avantage des États-Unis. Si l'exercice s'avère insatisfaisant, Donald Trump a dit qu'il était prêt à déchirer l'ALENA, cet accord commercial qui était entré en vigueur en 1994, il y a plus de 20 ans. On a une autre nouvelle à propos des relations canado-américaines dans la presse canadienne. Le NPD inquiet de la rumeur voulant que Sarah Palin soit ambassadrice à Ottawa. Vous vous souvenez de Sarah Palin, ancienne gouverneure d'Alaska. Elle n'avait jamais terminé son mandat, son seul mandat. Elle s'était jointe sur le ticket de John McCain en 2008, espérant devenir vice-présidente au cours côté du président McCain. Évidemment, c'est Obama qui avait remporté l'élection cette année-là. Donc, Sarah Palin, elle est demeurée dans les projecteurs, elle est demeurée, si vous voulez, dans l'espace public, puisqu'elle a longtemps été employée par la chaîne Fox. Elle livrait des analyses, si on peut appeler ça des analyses, à la chaîne Fox. Et donc, une rumeur veut que Sarah Palin soit bientôt nommée ambassadrice des États-Unis au Canada. Et cet article de la presse canadienne indique que ça n'amuse pas beaucoup l'opposition néo-démocrate à Ottawa. Le député néo-démocrate Nathan Cullen a estimé aujourd'hui jeudi que si cette nomination s'avérait, le Canada devrait composer avec non pas un, mais deux Donald Trump. Effectivement, Sarah Palin a une personnalité qui peut être comparée sous certains aspects à celle du président Trump. Donc le poste d'ambassadeur des États-Unis au Canada est vacant depuis la démission le mois dernier, le jour de l'investiture de Trump, de l'ancien ambassadeur Bruce Amann. Donc Amann est parti le jour de l'entrée en fonction de Donald Trump. Et donc le poste est vacant. Et la rumeur continue de s'enfler. La rumeur qui concerne Sarah Palin continue d'enfler. Le porte-parole de Donald Trump, Sean Spicer, a alimenté lui-même la rumeur mercredi en refusant d'exclure la possibilité que l'ancienne colistière de John McCain soit pressentie pour devenir ambassadrice du Canada. Donc c'est à suivre. Peut-être que ça va se confirmer, cette rumeur. C'est à suivre. Autrement, toujours dans le fil de la presse canadienne, la GRC rouvrira des dossiers dossier d'agression sexuelle qui avait été classé sans suite. La Gendarmerie royale du Canada, la GRC, a indiqué aujourd'hui jeudi qu'elle rouvrira des dossiers de plainte pour agression sexuelle qui avaient été jugés sans fondement au cours de l'année 2016. La police fédérale veut ainsi se conformer à ses nouvelles politiques et procédures en matière de plainte pour agression sexuelle. La GRC fera aussi l'examen d'un échantillon de dossiers antérieurs afin de s'assurer qu'ils ont été traités avec toute l'attention requise. Le quotidien Globe and Mail, je ne sais pas si vous aviez vu passer cette nouvelle, avait publié récemment un dossier sur les agressions, le classé sans suite par la GRC et d'autres services de police. Et c'est sans doute cet article qui a fait grand bruit, qui a incité la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, à rouvrir ces dossiers. Donc, c'est dans la presse canadienne, la GRC rouvrira des dossiers d'agression sexuelle qui avaient été classés. Et on se transporte à présent sur la scène internationale, mais toujours en parlant des États-Unis, décidément, en date du 9 février sur le portail Mediapart, l'arrivée de Donald Trump accentue les tensions en mer de Chine. C'est par la journaliste Élodie Goulesque. La mer de Chine du Sud est un intérêt vital pour les dirigeants de Pékin. Donc cette mer de Chine, là, c'est la mer qui se trouve entre la Chine et le Japon, grosso modo. C'est un intérêt vital pour les dirigeants de Pékin, indique cet article, et la source de nombreuses frictions en Asie depuis le début de la décennie. Si les positions de la Chine et de ses voisins se sont stabilisées, la situation pourrait à nouveau dégénérer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est l'un des thèmes qui revient le plus souvent dans les journaux chinois, rapporte Élodie Goulesque. Tous les deux jours, voire quotidiennement, les articles sur la mer de Chine sont omniprésents, parfois de façon courte, relatant des exercices militaires, quelquefois plus fournis, avec des photos d'avions de chasse au décollage sur l'unique porte-avions chinois, le Liaoning, parfois à travers des éditoriaux enflammés. La Chine parle beaucoup de la mer de Chine et les craintes sont importantes, indique en substance la journaliste. Et pour cause, la mer de Chine, aussi appelée mer de Chine méridionale, est au cœur des préoccupations du pouvoir chinois. Elle a même été élevée au rang d'intérêt vital en 2010 par les dirigeants du pays. Alors, cet article est très intéressant, donc il fait la synthèse des derniers mois qui ont vu le candidat Trump jeter des déclarations un petit peu choquantes pour la diplomatie chinoise. C'est très bien relaté, mais ce que je tiens à vous signaler par ailleurs, c'est un article qui paraît le même jour dans Courrier International, et cet article est un peu rassurant dans ce dossier, puisqu'il indique que Donald Trump a expédié une missive à Xi Jinping, le numéro un chinois, pour calmer les tensions. Donc, Donald Trump a correspondu avec le dirigeant chinois. Il lui a souhaité une bonne nouvelle année. On parle bien sûr de la nouvelle année lunaire, cette année qu'on appelle le nouvel an chinois parfois, bien souvent. Donc, il a profité de la nouvelle année lunaire, le nouvel an chinois, pour souhaiter une bonne année au dirigeant chinois. Et ça semble avoir été accueilli comme un signe de bonne volonté envers la Chine. Des éditorialistes chinois ont réagi favorablement. Donc, les tensions en mer de Chine pourraient se calmer. C'est un sujet de discorde international, notamment avec le Japon et la Corée du Sud et même le Vietnam. Autrement, dans les colonnes de l'agence France-Presse qui parle de la situation des communautés autochtones ici même au Canada, donc c'est une nouvelle qui paraît sur la scène internationale, des communautés autochtones canadiennes privées d'eau potable jusqu'en 2020. Les communautés autochtones du Canada privées d'eau potable devront attendre au moins jusqu'en 2020 pour espérer une amélioration de la situation, ont estimé aujourd'hui jeudi plusieurs organisations non gouvernementales. Un rapport publié aujourd'hui jeudi par la Fondation David Suzuki en collaboration avec Amnesty International a dénoncé la mauvaise qualité de l'eau distribuée dans les réserves autochtones canadiennes. Le premier ministre Justin Trudeau avait promis pendant la campagne électorale de 2015 de donner accès à une eau potable à tous les autochtones d'ici 2020. Alors, cette promesse est peut-être sera peut-être difficile à réaliser. C'est ce que nous apprend cet article paru dans l'agence France Presse, le fil de presse de l'agence France Presse, des communautés autochtones privées d'eau potable jusqu'en 2020. Toujours à propos de nos communautés autochtones au Canada, sur le portail de Radio-Canada, cette fois dans l'espace réservé aux nouvelles des communautés autochtones, une grande chef autochtone perd un proche au suicide alors qu'elle était à Ottawa pour témoigner de la crise. La grande chef Sheila North Wilson, qui représente 30 Premières Nations du Manitoba, s'est déplacée aujourd'hui jeudi à Ottawa pour sommer le gouvernement d'agir face au très haut taux de suicide qui sévit parmi les communautés autochtones du Manitoba. Tragique coïncidence, au même moment, elle a appris que son propre cousin venait de s'enlever la vie. Le drame est survenu au moment où Sheila North Wilson était en rencontre avec la ministre de la Santé Jane Philpott et la ministre des Affaires autochtones et du Nord du Canada Caroline Bennett pour évoquer la question des inégalités en matière de soins de santé. Pendant la rencontre, je recevais des textos de la part de membres de ma famille me demandant de prier, mais je ne savais pas pourquoi, a raconté Sheila North Wilson en ravalant ses larmes. À la fin de la rencontre, alors que je quittais la colline du Parlement, j'ai parlé à mon père et toute ma famille pleurait, disant que mon cousin était décédé. La grande chef a souligné que Gabe Winosk n'était pas un simple inconnu, donc ça c'est le cousin de la grande chef qui s'est enlevé la vie. Il avait terminé sa formation pour opérateur de machinerie lourde à Thompson, dans le nord du Manitoba, et était revenu s'installer avec sa femme et ses enfants dans la Première Nation de Oxford House, à 950 km au nord de Winnipeg, où il espérait trouver du travail. Alors, l'article se poursuit sur plusieurs paragraphes. Je vous encourage à en faire la lecture intégralement. Une grande chef perd un proche au suicide alors qu'elle est à Ottawa pour témoigner de la crise. C'est sur le portail de Radio-Canada. Une nouvelle un petit peu plus légère pour refermer ce bloc nouvelle du jour. C'est le portail du journal Le Monde dans la section Les clés de demain. Donc, Les clés de demain, c'est un cahier spécial du journal Le Monde. Vous trouverez ça à l'adresse Les clés de demain. .lemonde.fr. Et de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'une voiture de sport qui roule grâce à des électrolytes liquides. Et ça n'est pas une invention qui date d'hier. C'est une invention assez ancienne, mais qui connaît un retour en faveur. Et c'est ce que nous explique cet article. C'est un concept car qui fonctionne aux électrolyte liquide qui a été dévoilé récemment et une voiture concept donc qui attirera les amateurs de vitesse conscients de l'environnement, écrit le journaliste. Les voitures propres sont rarement synonymes d'aventure à grande vitesse, qu'ils soient électriques ou autres. Les modèles sur le marché sont plutôt réservés à un usage urbain ou familial. La voiture concept appelée Kant 48V et tout autre, à nous les virer à 300 km/h si tant est qu'il reste encore des endroits dans le monde où cette vitesse est autorisée. L'engin démarre au quart de tour et est capable d'atteindre les 100 km/h en exactement 2,4 secondes grâce à son moteur de 760 chevaux. Son autonomie est de plus de 1000 km. Et ce prototype fonctionne, nous dit l'article, grâce à une association d'électrolytes liquides positifs et négatifs, substances conductrices qui contiennent des ions mobiles. Même si le procédé de dissociation électrolytique n'est pas novateur, il a été inventé en 1887, son utilisation pour ce type de voiture l'est totalement. Donc ça, c'est tout nouveau, l'application dans les voitures, mais le procédé existait depuis plus d'un siècle. Alors, c'est la société Nano Flow Cell qui est derrière la conception de cette voiture futuriste et de performance. Alors, c'est une voiture qui fera rêver, bien sûr, et peut-être qui encouragera davantage de recherches, et ces prototypes ont pour vocation d'inspirer les fabricants et les consommateurs et à mettre les énergies nouvelles sur le devant de la scène. Donc vous trouverez ça dans le dans le portail lemonde.fr, dans le cahier Les clés de demain. On s'arrête encore quelques instants pour écouter un petit peu de musique. On va écouter une pièce du quatuor Mike Allen, une pièce qui s'intitule Get Back, tout simplement. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour la lecture d'un édito. Ensuite, ce sera l'interview du jour. À tout de suite. Le temps file à toute vitesse dans cette édition du débrief. Merci de nous écouter en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 10 février. On est à quelques instants de l'interview du jour avec le DG de la Société francophone de Victoria. J'aurais voulu vous parler d'un papier super intéressant sur la situation en Roumanie, un papier qui a paru sur le portail bastamag.net. Je vous donne le titre si vous voulez vous mettre à la page concernant les événements qui se succèdent en Roumanie. Le peuple est très en colère là-bas. La société civile se mobilise. Il y a des manifestations monstres contre le pouvoir. Donc le titre de cet article sur bastamag.net, Amnistie de politiciens corrompus, les Roumains font temporairement reculer le pouvoir. C'est signé par le journaliste Florentin Cassonnet dans le portail Bastamag. Et dans quelques instants, on se rend à l'interview du jour. Paul-André Mongeau de la Société francophone de Victoria nous parle du prochain 5 à 7 du sommelier. À tout de suite. Écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. On parle de vin, In Vino Veritas. Et pour parler de vin avec nous, j'accueille Paul-André. Bonjour, bonjour Paul-André.
Bonjour, bonjour Alexis, ça va bien?
Alors Paul-André Mongeau, le directeur général de la Société francophone de Victoria. Oui, ça va bien, merci d'être là. On parle d'un sujet super intéressant. On parle des 5 à 7 du sommelier, une activité que certains de nos auditeurs connaissent déjà, une activité qui en est à sa troisième saison.
Exactement, oui. On en a fait déjà deux saisons, on a eu 6 événements déjà et ils ont tous été couronnés de succès avec notre sommelier Jacques Lacoste, qui est un sommelier de l'année. Et on apprend beaucoup, énormément. On découvre des vins succulents qui sont à des prix très, très, très raisonnables. Alors, on a 3 nouveaux événements. Comme on a eu beaucoup de succès, les gens nous ont demandé de continuer. Oui. Donc, on a décidé de faire 3 nouveaux événements d'ici le 17 juin. Donc, nous avons, comme je vous disais, 3 événements. Les 3 événements sont séparés dans des vins différents, des catégories différentes. Donc, le samedi 25 février à 17h, ça va être le Syrah qui va être à l'honneur. On déguste habituellement une moyenne de 8 bouteilles de vin. On est un maximum de 30 personnes, donc tout le monde a eu le temps de bien goûter, d'apprendre aussi en même temps. Et cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Pour la dernière fois, nous serons au Victoria West Community Center parce que les 2 autres événements auront lieu dans notre nouveau mini-centre culturel qui se trouve au 2-12-18 Langley, comme on annonce sur notre site Internet depuis déjà 3 semaines. On va être dans notre propre centre mini-culturel. Et ça, ça va avoir lieu dans deux dates. Une qui va être samedi le 22 avril à 17h. Ça va être les vins de la Colombie-Britannique qui vont être à l'honneur cette fois-ci. Et le samedi 17 juin, ça va être à 17h toujours, les vins pour le barbecue, prêts pour la saison d'été. Donc, ça devrait être très, très intéressant. Donc, les deux derniers événements de la saison 3 vont avoir lieu chez nous, dans notre petite salle culturelle. Oui. Cette salle-ci, on est allé la visiter aujourd'hui et on parle de presque 1000 pieds carrés. Donc, c'est un espace qui va être très intéressant pour faire des activités.
Très accueillant, très propice pour le réseautage et puis l'appréciation de ces vins du sommelier Jacques Lacoste. Donc, on peut peut-être focaliser sur la date du 25 février puisque ça approche à grands pas. Tu m'as indiqué le cépage, le vin, l'appellation contrôlé là qui est en vedette ce jour-là. On peut peut-être répéter le centre communautaire de VicWest. Donc ça c'est au 521 Craig Flower Road, donc le 25 février à 17h. Et pour réserver, on fait comment?
Alors pour réserver, la façon la plus facile, c'est d'aller sur le site francocentre.com et vous allez voir des bandeaux défiler sur le site. Et lorsque vous voyez le 5 à 7 du sommelier, vous cliquez sur le bandeau qui vous amène directement au site Eventbrite. Ou à ce moment-là, c'est 40$ par rendez-vous. Ou si vous voulez en profiter jusqu'au 24 février, vous pouvez acheter le forfait des 3 événements pour 105$. Et dans le 105$ ou dans le 40$, les frais sont tout inclus.
D'accord. Donc, on épargne, bien sûr, avec le forfait. Autrement, c'est à la carte au montant de 40$. Donc, la transaction se fait sur Eventbrite. Et on peut pas manquer la publicité concernant ce 5 à 7. Si on se rend sur francocentre.com, tout de suite, là, c'est vraiment... ça saute aux yeux.
Absolument, absolument, Alexis.
Donc, toi, tu as participé à ces 5 à 7-là.
Oui.
Comment tu décrirais ça? Comment ça se passe?
La façon que ça se passe, c'est qu'on a Jacques qui nous présente les vins.
Oui.
Les bouteilles sont tous devant nous. On a un cahier où on peut suivre, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Et on apprend beaucoup sur le cépage. Et en même temps, on goûte et puis on va chercher nos favoris. Moi, ce que j'ai découvert personnellement, c'est que pour les sous qui sont investis dans ce 5 à 7-là, quand on en ressort et on a rempli habituellement, dépendant des gens s'y écrivent beaucoup, mais moi je remplis un feuillet de 11-17 complet.
Sur tes impressions.
Absolument, j'écris tout ce que j'aime pas et tout. Et habituellement, j'en sors facilement, sur 8-20, j'en sors facilement avec 5 qui sont favoris. Et depuis maintenant 18 mois, je me paie des bouteilles de vin qui sont délicieuses, à moitié du prix de ce que je dépense avant vin, avec des vins qui sont supérieurs, parce que je découvre des vins que je ne connaissais pas. Mais quand on travaille avec Jacques Lacoste comme sommelier, puis on est là comme personne pour nous enseigner tout ce qui touche le cépage, c'est très, très, très intéressant. On fait beaucoup de mariages au niveau nourriture. On demande qu'est-ce que ça serait bon avec quoi comme nourriture. Donc, les mariages se font. Moi, en tout cas, j'ai été emballé. Je n'ai pas fait 6, j'en ai fait 5, j'en ai manqué une au mois de novembre, mais vraiment délicieux.
Est-ce qu'il est accessible, Jacques Lacoste, au cours de l'activité? Est-ce qu'on peut l'approcher pour lui poser des questions? Est-ce que c'est un exposé magistral sur une tribune ou est-ce qu'il est parmi nous, il circule?
Non, il est assis à une table et puis c'est sous format discussion. Ça veut dire qu'il nous présente le vin et après ça, si on a des questions, peu importe sur le vin qu'on goûte, on pose des questions et tout le monde pose des questions beaucoup. Donc, ce qu'on écoute, on pose des questions. On apprend beaucoup parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est quoi le fromage? C'est quoi la viande qui est avec ça? » Ou les légumes, les fruits, peu importe. Alors, on apprend. Donc, c'est vraiment une formule qui est très, très, je pourrais dire, confortable.
D'accord.
C'est-à-dire que, Jacques n'est pas une personne qui s'impose nécessairement.
Mm-hmm. Comment vous l'avez rencontré? Comment la relation s'est-elle nouée? C'est la troisième saison, donc comment ça s'est fait au départ?
Ben, on a Isabelle Leboul, qui est notre vice-présidente, et ça se trouve être son conjoint.
D'accord.
Alors, à ce moment-là, ça s'est très bien fait.
Oui. Et,
l'idée est venue d'Isabelle de voir est-ce qu'on pourrait faire des 5 à 7 avec le sommelier pour apprendre. On a lancé la première saison, c'était un succès, la deuxième saison, et
oui,
on est déjà rendu à la troisième.
C'est passionnant. Donc, c'est dans la première partie de l'année 2017 que ça se passe. Il y a 3 grands rendez-vous. Le premier a lieu le 25 février, ensuite le 22 avril, et par la suite le 17 juin. Vous avez un forfait pour les 3 rencontres du sommelier, les 3 5 à 7 du sommelier. Autrement, c'est $40. Et comme tu le disais, ça permet de faire des découvertes et d'épargner finalement, de ne pas dépenser indûment sur des bouteilles qui finalement en valent pas la peine.
C'est ça, définitivement. Alors, on apprend. Moi, je suis tout à fait convaincu.
Très instructif. D'accord. Paul-André Mongeau, grand merci pour cette information sur les 5 à 7 du sommelier. À très bientôt dans l'émission Le Débrief.
Merci beaucoup, Alexis.
Alors, francocentre.com pour avoir toutes les infos sur ce 5 à 7 du sommelier du 25 février. Encore merci, Paul-André, pour toutes ces informations. C'est déjà la fin du débrief. On a actuellement 9 degrés au centre-ville de Victoria. Quelques averses dispersées au cours des prochaines heures. Rien de très marqué. Donc, le mercure va descendre à 5. Et demain, Environnement Canada nous prédit des averses avec un maximum de 8. C'est tout pour le débrief pour cette semaine. On se retrouve lundi